Europe 1, il est midi.
On passe du confinement au déconfinement, on va pas passer du noir au blanc, on va passer du noir au gris foncé.
La poudrière du 11 mai. De plus en plus de Français se demandent s'il est bien raisonnable de sortir du confinement à une date aussi proche.
Et nous ferons dans un instant le point sur ce qui est susceptible de rouvrir ou pas. Et notre invité Christophe Najdowski nous parlera des transports, puisque c'est son métier à la mairie de Paris. Comment envisage-t-on de recirculer ? Pas question en tout cas des métros bondés.
Ceux qui seront exclus du déconfinement, ce sont les personnes les plus vulnérables, en commençant par les seniors.
Scandaleux, anticonstitutionnel, rappelle Axel Kahn, le généticien qui viendra nous détailler son propos.
Pendant ce temps, les chiffres en réanimation sont encourageants, ça baisse et en mortalité aussi.
On a beaucoup moins de patients qui présentent la maladie du Covid-19 qu'on accueille aux urgences. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas intubé un seul patient.
Dans ce journal également, Amazon ferme en France, .barre, pour 5 jours. Pas de date de réouverture des sites pour l'instant.
Cette action aura des conséquences sur nos employés, sur les entreprises françaises qui utilisent nos services. Je le déplore et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous faisons appel.
Vous entendez Frédéric Duval, il était notre invité sur Europe 1 ce matin en réponse à l'action syndicale, la décision de justice. On vous explique tout et nous verrons avec Rodolphe Bonas, spécialiste consommation, que ces livraisons sont la petite joie des Français confinés.
L'inquiétude des habitants de Rouen, l'usine Lubrizol continue de produire des fumées et des odeurs. Pour eux, le confinement, c'est la double peine.
Et puis, nous vous emmenons dans un bar de Villefranche-sur-Saône qui défie toutes les règles du confinement à coups de champagne et de rosé. La météo, bonjour Anissa.
Bonjour Pierre, bonjour Elisabeth et bonjour,
bonjour Anissa.
Le temps devient menaçant, vous nous dites.
Oui, effectivement, on l'a remarqué hein, sur certaines régions. Depuis ce matin, les nuages sont beaucoup plus nombreux. Eh bien, c'est à l'ouest que le ciel sera le plus chargé, avec même des averses et des orages cet après-midi de la Bretagne au Pays Basque. Je vous donne tous les détails de cette journée assez agitée à la fin du journal.
Merci Anissa. On vous retrouve tout à l'heure, juste avant 13h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le 11 mai, beaucoup de joie dans le cœur des Français à l'annonce de cette date de déconfinement par le président lundi soir. Une joie qui laisse maintenant place à une certaine inquiétude.
Oui, parce qu'on est sur le plateau, pour reprendre l'image des médecins. On n'est pas encore en descente, on le verra dans quelques instants, même si c'est vrai, les chiffres, surtout en réanimation, sont en baisse. Quoi qu'il en soit, le 11 mai est en effet un soulagement, mais suscite beaucoup d'inquiétude sur l'organisation. Élise Dangean, on va voir tout ça avec vous. D'abord, qu'est-ce qui risque d'ouvrir le 11 mai?
Eh bien d'abord, les crèches et les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées devraient rouvrir leurs portes progressivement. Les étudiants du supérieur, eux, ne reprendront les cours qu'en septembre. Du côté des commerces non essentiels à la vie de la nation, fermés depuis le 16 mars dernier, certains pourraient bien reprendre leur activité, comme les magasins de prêt-à-porter, les fleuristes ou les coiffeurs. En revanche, les restaurants, les bars ou encore les cinémas resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.
Et dans ces secteurs, quelles sont les inquiétudes concernant l'organisation ?
C'est simple, tous s'inquiètent d'une reprise prématurée et donc d'un regain de l'épidémie. C'est le cas par exemple du Conseil national des entreprises de coiffure. Et le sujet qui cristallise le plus d'inquiétude, eh bien c'est la reprise de l'école. Les enseignants craignent pour leur santé, les parents pour celle de leurs enfants. La question des masques est aussi au cœur des préoccupations. Tous les Français auront-ils accès à ces protections pour retourner travailler ? Et parmi les plus inquiets, eh bien il y a ceux évidemment qui devront reprendre les transports en commun, notamment en Île-de-France.
Merci Élise Dangean.
La mairie de Paris avance l'hypothèse de pistes cyclables élargies sur certains axes de la capitale, des boulevards en ce moment vides qui pourraient donc à terme être aménagés, avec cette question des transports qui se pose à Paris comme ailleurs.
Bonjour Christophe Najdowski.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge des transports. On est bien d'accord, le métro bondé, les bus bondés le 11 mai, ça va pas être tenable.
Ça va pas être tenable. D'ailleurs, il faut quand même, malgré tout, un plan de reconquête hein, des transports collectifs et il faudra redonner confiance aux Français dans les transports collectifs. Donc ce sera un des défis majeurs que les autorités organisatrices des transports des villes auront à mettre en œuvre. pour la sortie de confinement. Donc il faudra bien évidemment travailler sur cette question.
Non, mais il faudra j'imagine, Christophe Najdowski, que vous travaillez déjà avec ces entreprises, parce qu'on est à un mois du déconfinement. Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que c'est un siège sur deux dans les bus? Enfin, j'invente là, mais vous allez vous me donner des pistes.
Absolument, parce que vous dites est tout à fait cohérent et vrai, puisque dans les pays asiatiques, par exemple, donc il y a des plans de transport qui ont été réalisés de manière à ce qu'il n'y ait pas de saturation au-delà de 50% dans les transports collectifs, donc dans les trains, dans les métros, dans les bus. Et donc c'est une proposition que nous allons faire auprès de la région Île-de-France. Donc nous avons un conseil d'administration exceptionnel demain avec la présidente de la région Valérie Pécresse, et donc nous allons proposer ce type de mise en œuvre de mesures, de manière à ce que l'on redonne confiance dans l'usage des transports en commun, qu'on le respecte, la distanciation sociale, les gestes barrières, faire en sorte par exemple que l'on puisse avoir des masques ou en tout cas des éléments de protection pour faire en sorte que les gens ne se détournent pas massivement des transports en commun, parce que s'ils se retournent vers la voiture individuelle, on sait que ça va générer des embouteillages monstres et que ça ne sera pas gérable non plus pour les grandes villes.
Et une distribution de masques, c'est envisageable? Vous avez déjà passé... Des commandes sont en cours?
C'est une compétence de la région, donc je ne pourrais pas vous répondre à sa place, mais il est évident qu'on aura besoin, dans les semaines qui viennent, que l'on puisse mettre à disposition des usagers, des voyageurs, les éléments de protection pour qu'ils puissent se sentir en sécurité et qu'ils aient envie de retrouver les transports en commun. Et puis il faudra travailler aussi à des alternatives, faire en sorte, par exemple, comme on l'a effectivement proposé à Paris, avec de nouveaux aménagements cyclables, de donner la possibilité aux usagers de pouvoir utiliser, là aussi en toute sécurité, d'autres moyens de se déplacer, le vélo par exemple, qui a l'avantage de permettre la distanciation sociale, effectivement.
Oui, alors justement, on l'a vu d'ailleurs ce matin avec Pierre Cernes, on va mettre les points sur les i avec vous, Christophe Najdowski, il n'est pas question de transformer des boulevards existants en pistes cyclables, on est bien d'accord là-dessus?
Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de donner davantage de place aux aménagements cyclables sur les grands axes structurants, un peu de calquer en quelque sorte en surface des aménagements vélos qui doublent le réseau du métro en sous-sol, et faire en sorte que sur ces grands axes structurants, on ait donc un réseau structurant sécurisé avec des aménagements légers qui pourront être réversibles, c'est-à-dire si ça ne marche pas, on pourra les défaire. Si ça marche, par contre, eh bien, peut-être qu'on pourra les pérenniser dans le temps. En tout cas, l'idée,
ça, c'est
vraiment
pour les vélos, mais aussi les trottinettes, les vélos en libre-service, les mobilités
les
nouvelles.
Je dirais tout ce qu'on appelle les micro-mobilités aujourd'hui, les engins de déplacement personnel, les mobilités alternatives, donc tout ce qui concourt, on va dire, à se déplacer en termes alternatifs au transport en commun, sera le bienvenu, de manière à ce que l'on puisse avoir des solutions qui soient offertes à tout un chacun pour pouvoir se déplacer en toute sécurité au moment du déconfinement.
Je reviens une seconde sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Christophe Najdowski. Vous avez dit pas question de reprendre la voiture individuelle parce que ça va créer des bouchons. Pourtant, au point de vue sanitaire, c'est ce qui reste le plus sécuritaire aujourd'hui.
Alors, évidemment, il va y avoir un réflexe vers des modes de déplacement individuels, et c'est la raison pour laquelle les autorités, les collectivités doivent essayer de rendre confiance dans les transports collectifs ou dans d'autres modes de déplacement. Parce que si tout le monde utilise son véhicule individuel, ça va être la thrombose, ça va être les 500 km de bouchons par jour en Île-de-France avec les pertes de temps que l'on connaît. Et on sait que c'est une situation qui, à long terme, n'est pas viable. Et donc on doit dès aujourd'hui penser à offrir d'autres alternatives à l'usage de la voiture individuelle, sachant qu'effectivement, spontanément, les Français seront peut-être plus incités à reprendre leur véhicule.
Une dernière question, et vous me voyez venir, Christophe Najdowski, puisque les acteurs des professions automobiles l'ont remarqué, la pollution ne baisse pas en ce moment, alors qu'il n'y a aucune voiture qui circule. Comment ça s'explique?
Ah non, c'est faux. Au contraire, Air Paris, qui mesure la qualité de l'air en Île-de-France, a montré que on avait une baisse historique de la pollution de l'air en Île-de-France, mais elle est aussi contrecarrée par le fait qu'on est à la période des épandages agricoles et donc au printemps, avec des phénomènes thermiques également qui font qu'il y a la transformation de gaz en gaz secondaires qui sont des gaz polluants. Et donc, on a une partie de la pollution aujourd'hui qui vient notamment donc de ces épandages agricoles. J'ai envie de dire que nous avons même échappé à des pics de pollution du fait de l'absence de trafic qui a évité d'ajouter encore une couche supplémentaire de polluants atmosphériques par rapport aux émissions issues de l'agriculture. Et donc, la qualité de l'air s'est globalement améliorée. Mais par contre, effectivement, la situation aurait pu être beaucoup moins favorable s'il y avait eu en plus un trafic automobile intense. Et donc, d'une certaine manière, le confinement nous a évité des pics de pollution et une qualité de l'air dégradée.
Merci beaucoup Christophe Najdowski d'avoir été avec nous en ligne et en direct sur Europe 1.
Et dans ce déconfinement du 11 mai, une mesure suscite la polémique, les seniors priaient de rester à la maison.
Oui, écoutez là-dessus le professeur Delfrécy, le président du conseil scientifique lors de son audition hier à l'Assemblée nationale.
Les personnes qui sont les plus à risque de développer une forme grave, ça va rester. Ce sont les personnes d'un certain âge, donc au-dessus de 65 ou de 70 ans. Ce sont les personnes qui ont des affections de longue durée, qui ont des multipathologies, insuffisance respiratoire, cardiaque, etc. Et puis ce sont des sujets jeunes, ayant une pathologie, mais aussi obèses, puisque vous savez que c'est un facteur de gravité pour les formes graves. Alors, tout ça, ça fait 18 millions de personnes. Donc, de toute façon, numérique ou pas numérique, nous avons, à la sortie du confinement, 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminé et de continuer à développer une forme grave.
18 millions de personnes privées de confinement. Bonjour Axel Kahn.
Bonjour.
Célèbre médecin, généticien, vous êtes le président de la Ligue contre le cancer. Vous vous êtes complètement contre cette décision.
Alors, ça dépend comment on présente la décision. Mon collègue et ami Jean-François Delfrécy a tout à fait raison d'avertir les personnes au-delà d'un certain âge qu'elles font partie des personnes qui sont plus à risque. Et donc, leur donner des conseils, leur dire d'accroître le niveau d'utilisation des gestes barrières, de porter un masque, etc., etc. En revanche, si jamais cela devait aboutir à une mesure administrative, faisant que ces personnes au-delà de 65-70 ans, au-delà d'un certain poids, au-delà d'une certaine capacité respiratoire, au-delà d'un certain nombre de mois de grossesse, etc., etc., avec une amende si elles sortaient de chez elles, ça serait totalement pas possible. D'abord,
donc il ne faut pas que ce soit contraint.
Voilà, c'est anticonstitutionnel, c'est-à-dire que simplement on ne le peut pas. Voyez la différence. Quand on confine tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Mais si on se mettait à discriminer les personnes fragiles, la Constitution française, l'esprit de la loi française, et d'aider, d'accompagner les personnes fragiles, pas de les discriminer, naturellement. Oui. Et par conséquent, il y a une présentation. Alors, la raison pour laquelle je suis très sensibilisé...
Vous le comprenez comment, Axel Kahn, vous ? Parce que le président a dit les personnes vulnérables devront, au-delà de ce déconfinement, au-delà du 11 mai, devront rester chez elles, devront rester confinées.
Alors, ça dépend. Le président de la République, lui, il a dit, nous conseillons aux personnes fragiles de continuer à prendre des précautions, etc., etc. Je n'ai rien à dire. À la Ligue contre le cancer, on a reçu des centaines, environ 500 appels de personnes très fragiles, puisque atteintes en traitement pour cancer, et nous les avons conseillées, on leur a donné des conseils de prudence, et on va continuer, après le 11 mai, à leur donner des conseils de prudence. Donc ça, il n'y a aucun problème. Cela étant dit, voyez-vous, cela a abouti à ce que des personnes nous ont téléphoné totalement affolées. En nous disant, mais écoutez, est-ce qu'on va être assigné à résidence jusqu'à la fin de l'année parce que nous avons tel âge ou nous sommes dans tel ou tel état ? C'est pas possible. D'abord, je vous ai dit, c'est pas possible pour des raisons légales. C'est illégal.
Ouais.
Deuxièmement, ça n'est pas possible parce que cela peut avoir des répercussions absolument terribles pour certaines personnes. Et troisièmement,
lesquelles,
c'est pas possible.
Lesquelles répercussions, Axel Kahn ?
Attendez, simplement, laissez-moi terminer sur ce point. La société française, elle repose en grande partie sur le bénévolat. Vous savez, il y a environ 11 millions de bénévoles. Or, 80% des bénévoles, ce sont des retraités. Si d'un seul coup d'un seul, pendant 6 mois, vous supprimez le bénévolat, la société française qui a besoin de plus d'engagement encore que jamais est en très grande difficulté. Donc, il ne faut pas que les personnes entendent, car ce serait évidemment un contresens, qu'il va y avoir des mesures administratives discriminatoires. Il ne peut pas y en avoir, il ne voit pas y en avoir.
Et en 10 secondes, les répercussions dont vous parlez, c'est les répercussions sur le moral des Français qui sont
plus,
un peu
ça,
plus ténus.
Pour certaines personnes, la santé. Un point en 15 secondes, si vous voulez. Quand vous avez 30 ou 40 ans, le fait d'être privé d'un printemps, d'un été, c'est embêtant, évidemment. Mais quand vous avez un certain âge, et vous êtes bien, et vous êtes assez bien, vous pouvez encore profiter d'un printemps, d'un été. Vous dire, voilà, on vous le supprime. Mais simplement, c'est intolérable. C'est intolérable. C'est pas possible. C'est impossible. Voilà.
Je comprends. Et vous faites bien de nous le rappeler. Merci beaucoup, Axel Kahn, d'avoir été en direct sur Europe 1 avec nous. Il est midi 15.
Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Elisabeth Assayag.
La bonne nouvelle, même si elle est à prendre avec beaucoup de précautions, c'est que les patients admis en réanimation sont en baisse, Pierre.
Oui, et que d'une manière générale, la mortalité est en baisse en France. Écoutez ce qu'en disait ce matin sur Europe 1 le professeur Gabriel Stegg, co-président du comité de pilotage Covid-19 et chef du service cardiologie à l'hôpital Huichat.
C'est, le reflet de l'efficacité du confinement pour essayer d'aplatir la courbe des hospitalisations et des entrées en réanimation. Donc c'est une très très bonne nouvelle, mais en même temps, il faut se rendre compte qu'on est à un plateau, on n'est pas dans une redescente, on est à un plateau du nombre de cas, les réanimations sont pleines. Il y a un petit peu de place aujourd'hui, mais elles sont pleines à un niveau très haut, elles sont pleines à un niveau qui est le double ou le triple du chiffre normal. Les personnels de réanimation sont épuisés, parce que ça fait des semaines qu'ils se succèdent, souvent sans repos. On a une diminution du nombre de nouveaux cas qui se présentent à l'hôpital, mais on est loin d'être sorti de l'auberge, et s'il devait y avoir un rebond, si je puis dire, on serait mort.
Voilà les prédictions, il faut faire attention à la suite, nous dit le professeur Gabriel Stegg avec Sonia Mabrouk.
Et le revers de la médaille de ces nouvelles encourageantes, ce sont les nouveaux symptômes, des symptômes qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques semaines.
Effectivement, et qui ont été relevés chez des dizaines de milliers de Français qui se soignent chez eux sans être hospitalisés, mais même après plusieurs semaines, certaines douleurs, certaines gênes persistent, comme chez Laurent que Victor Delande a joint pour Europe 1.
J'aimerais quand même savoir quand est-ce que cet essoufflement il va s'arrêter et quand est-ce que je pourrais enfin respirer normalement et plus avoir à penser à ce virus.
Laurent a contracté le coronavirus il y a pourtant un mois. Entre la fatigue, les problèmes respiratoires et les pressions sur le thorax, il est inquiet. Autre symptôme qui persiste chez certains patients, la perte du goût et de l'odorat. Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, livre un début d'explication.
L'anosmie et l'agnosie, ils sont des signes gênants mais pas graves en soi. Il semble qu'effectivement ils soient assez durables et probablement liés à des atteintes neurologiques.
Plus de 500 chercheurs de 38 pays ont lancé hier une vaste enquête mondiale pour mieux comprendre ce phénomène. Autre étude lancée, cette fois en France, sur des lésions cutanées. Marie Bello-Barry, présidente de la Société française de dermatologie, a relevé
une fréquence anormale de certaines manifestations à type d'engelure, donc c'est-à-dire des lésions un peu violacées au niveau des extrémités, des orteils, des doigts. C'est peut-être lié au Covid, mais il faudra encore le prouver.
Il faudra donc multiplier les tests pour faire le lien entre ces symptômes et le coronavirus. Mais pour rassurer les patients infectés, il y a déjà plusieurs semaines, aucun cas clinique de rechute grave n'a été enregistré à ce jour.
Autre gêne, bien sûr, le sommeil. Est-ce que vous dormez bien en ce moment, Elisabeth?
Quelques insomnies par-ci, par-là. Le rythme est un peu décalé, mais c'est aussi le cas de Laura. Je ne suis pas la seule qui tient un restaurant avec son mari à Paris, un établissement qui est bien sûr fermé en ce moment à cause du confinement.
Oui, et depuis, les nuits sont compliquées pour ce couple habitué à de longues et intenses journées de travail.
On a rarement envie d'aller se coucher en ce moment, parce que c'est un peu là que les démons nous rattrapent. Quand on se réveille pas en plein milieu de la nuit, c'est qu'on s'endort en général rarement avant 3h30, 4h du matin. C'est compliqué de fermer l'œil paisiblement. Une fois qu'on est dans le lit, on cogite. On se demande déjà quand est-ce qu'on pourra réouvrir, dans quelles conditions, et si d'ici là on arrivera à tenir. C'est surtout ça en fait. Et c'est ça qui nous stresse énormément, sachant qu'en plus de ça, comme on est confiné, on tourne vite en rond. C'est pas un rythme qui est normal pour nous. Donc ça fait 10-15 ans quand on s'endort. En général, on est tellement fatigué qu'on s'endort d'une traite. C'est dur de passer de 10-15 ans de ce genre de sommeil-là à maintenant 2 mois forcés d'un rythme qui est complètement différent et qui n'est pas choisi. Personnellement, moi, je commence à saturer un petit peu.
Laura qui sature et qui tient un restaurant en temps normal avec Romane Hoquet.
Bonjour, docteur Sylvie Royan-Parola.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin du sommeil et présidente du réseau Morphée. Alors, on vient de l'entendre hein, avec Laura, ce changement de rythme, ce changement de vie, ça joue énormément, ça impacte énormément notre sommeil.
Alors tout à fait, elle pointe deux choses, à la fois l'anxiété de la situation et de ses angoisses sur l'avenir, et effectivement le changement de rythme. Et ces deux éléments-là sont des éléments qui sont vraiment fondamentaux pour l'organisation du sommeil et pour finalement expliquer le fait que l'on dorme mal en ce moment.
Alors que faudrait-il faire ? Il faudrait garder un rythme, se forcer à se coucher à l'heure à laquelle on se couche hors confinement ? Quels sont vos conseils ?
Alors effectivement, au niveau du confinement, ça introduit vraiment un changement parce qu'on n'est plus du tout dans ses repères habituels avec ses rituels au niveau du timing, le fait de se lever à une certaine heure, d'aller travailler, de rentrer le soir, etc. Tout ça, c'est pour une grande part de la population complètement modifié. Et du coup, on n'a plus du tout nos repères horaires habituels. Et il y a deux choses qui sont fondamentales pour pouvoir bien structurer le sommeil. C'est l'exposition à la lumière, donc le fait que l'on sorte dehors, et ça, évidemment, en situation de confinement, c'est moindre. Et la deuxième chose, c'est que on soit dans une activité qui est régulière. Et là, pour le coup, beaucoup de personnes, quand elles sont chez elles, vont complètement modifier leurs habitudes, se relâcher un peu sur les horaires, faire un petit peu de travail à un moment donné, un petit peu d'activité, alors qu'il faut faire strictement l'inverse.
Il y a une question qui me vient à l'esprit, Sylvie Royan-Parola. Ce sont des restaurateurs, donc ils sont dans le stress permanent. Est-ce qu'il faut se stresser au-delà de ça? Il faut s'inventer un stress chez soi pour bien dormir?
Non, il faut pas. Enfin, le stress du restaurateur quand il travaille, c'est qu'il est constamment sous pression. Mais là, il a un stress.
Il a le stress de ses fins de mois, je pense.
Pardon.
Il a le stress de ses fins de mois.
Oui, aussi.
Oui, là, maintenant, il va avoir un stress d'existence complètement, quoi, parce qu'il peut se demander s'ils vont encore réussir à avoir
sinon,
une entreprise dans quelques temps.
Ouais, sinon, il faut faire la cuisine pour ses enfants et envoyer très très vite en cuisine, comme on dit, aller tout de suite à la table 12. Merci beaucoup Sylvie Royan-Parola, merci d'avoir été avec nous. Il est midi 23.
Europe 1.
Une pause et dans un instant, ce ne sont pas 50 mais 668 marins du porte-avions Charles de Gaulle qui sont positifs au Covid-19. Un cluster géant, on y revient dans un instant. Et puis Mélanie Gomez sera là pour répondre à vos questions. À tout de suite.
Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Elisabeth Assayag.
Le chiffre est vertigineux. Sur les 1700 marins du Charles de Gaulle, ce ne sont plus 50 qui sont infectés par le coronavirus, mais près de 668.
Oui, c'est quasiment plus d'un tiers de l'effectif du porte-avions et de la frégate qui l'accompagnait. Hélène Terzian, la Marine nationale, a donné des précisions il y a quelques minutes.
Effectivement, tout d'abord sur ce bilan vertigineux, mais qui reste temporaire puisqu'il est encore amené à gonfler. La campagne de test est toujours en cours auprès de tous les militaires confinés. 30% d'entre eux n'ont toujours pas encore livré leurs résultats. Parmi les cas détectés, une vingtaine sont hospitalisés, dont un en réanimation. Et la préfecture maritime de Méditerranée l'a rappelé à l'instant lors de sa conférence de presse. Il s'agit désormais de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Voilà pourquoi deux enquêtes sont menées. D'abord, une enquête épidémiologique pour savoir comment le virus a pu arriver puis se propager sur le bateau. On sait en tout cas que lors de la dernière escale à Brest, des marins ont pu brièvement débarquer et l'on a appris qu'une relève d'une cinquantaine de personnes a embarqué à ce moment-là. Autre enquête de commandement cette fois, ordonnée par le chef d'état-major de la marine. Elle doit évaluer la gestion de la crise à bord, comprendre à quel moment et comment les décisions de confinement des marins contaminés ont été prises. Ces deux enquêtes sont en cours et devraient durer plusieurs semaines.
Merci de ces dernières précisions. Hélène Terzian.
Et puis tous les jours, Mélanie Gomez va répondre à nos questions 3921 et avec le hashtag Radio Ouverte. Bonjour Mélanie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Pierre, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors vous avez reçu une question de Laurence. Laurence a 43 ans, elle vous demande, Mélanie, il paraît que l'Institut Pasteur cherche un vaccin, il est en train d'en mettre un au point, mais quand pourra-t-on bénéficier de ce vaccin français ?
Alors c'est vrai, l'Institut Pasteur, les chercheurs français ont un candidat vaccin, comme on dit, en cours de fabrication et d'évaluation surtout. Je dis de fabrication parce que c'est pas un vaccin pour lequel on est parti à zéro. Ils ont pris une base, on va dire, de vaccin contre la rougeole qui a été modifié génétiquement pour cibler le coronavirus. Ça, c'est fait. À ce stade, les essais chez l'animal ont démarré. Il semblerait même, et ça c'est déjà une bonne nouvelle, qu'il fonctionne déjà bien chez la souris. Mais après, il va falloir le tester évidemment chez l'homme. Et cette phase, elle devrait démarrer courant juillet. Elle durera encore plusieurs mois pour vérifier bien sûr la tolérance et l'efficacité de ce vaccin chez l'être humain. Donc vous voyez, on n'y est pas encore. Si toutes les étapes dont je viens de parler sont concluantes, et c'est pas certain non plus, hein, on croise les doigts évidemment. Ouais, ensuite, évidemment, il faudra lancer la production à l'échelle industrielle pour pouvoir le mettre à disposition du plus grand nombre, produire des millions de doses de vaccins. Là, ça nous amènera probablement à l'automne 2021. Donc vous voyez, ça vous paraît sûrement très loin, mais sachez qu'un vaccin efficace et sûr, même fin 2021, ce serait quand même déjà un record du point de vue scientifique.
Dominique de Royan nous interroge, et c'est assez grave, hein, il a le coronavirus depuis 12 jours. Il nous dit « j'ai de la fièvre, c'est mon principal symptôme, donc ça va. Le docteur m'a prescrit du Doliprane toutes les 6 heures, ça n'a pas l'air de fonctionner, est-ce que je peux augmenter les doses ?»
Alors d'abord Dominique, vraiment, je vais vous conseiller surtout en premier lieu de consulter à nouveau votre médecin pour ajuster peut-être votre traitement si vous trouvez que le soulagement de l'actuel n'est pas satisfaisant dans votre cas précis. Néanmoins, je vais quand même en profiter aussi pour faire une rapide mise au point sur le paracétamol dont vous parlez. Covid-19 ou pas, les précautions d'usage avec ce médicament restent les mêmes et c'est très important parce que depuis le début de cette épidémie, il y a déjà eu plusieurs accidents, plusieurs intoxications rapportées par les centres antipoisons. Donc il faut toujours prendre la dose la plus faible, le moins longtemps possible, et respecter aussi bien sûr l'intervalle minimum entre les prises qui est en général de 4 à 6 heures. Le paracétamol, c'est un très bon médicament, très efficace, mais ce n'est pas un bonbon. En cas de surdosage, il peut entraîner des lésions graves du foie, parfois irréversibles. Et je rappelle une fois de plus qu'une mauvaise utilisation du paracétamol, c'est la première cause de greffe hépatique d'origine médicamenteuse en France.
Donc si ça ne fonctionne pas, il faut qu'il appelle son médecin.
Voilà, on n'augmente pas les doses tout seul, jamais.
Évidemment.
Merci Mélanie Gomez, à tout à l'heure, 13h dans le journal et à 15h pour Sans Rendez-vous, midi 28.
Europe 1.
Vous restez avec nous et dans un instant, Amazon tire le rideau en France. Plus aucun site ne fonctionnera pendant 5 jours. Et puis l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point, le président assume ses choix.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Sommée par la justice française de respecter son devoir de protection des salariés vis-à-vis du coronavirus, Amazon ferme ses entrepôts pendant 5 jours.
Ouais, et sur Europe 1 ce matin, le patron d'Amazon France, Frédéric Duval, a contesté le jugement du tribunal de Nanterre qui le somme donc de limiter son activité aux produits essentiels. Il va faire appel, mais il assume sa décision. Clément Le Saffre, ce qu'il faut voir, c'est qu'Amazon n'avait pas vraiment le choix.
Oui, dans quelques minutes, à 13h précisément, les 6 centres de distribution français d'Amazon vont fermer leurs portes. Ils ne rouvriront que mardi matin, une mesure drastique mais jugée nécessaire par le groupe pour se conformer à la loi. Si Amazon était pris en train de manipuler des produits non essentiels dans ses entrepôts, l'entreprise encourait une amende d'1 million d'euros par infraction. Trop risqué, Amazon a préféré tout arrêter pendant 5 jours et peut-être même plus. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France, invité d'Europe 1 ce matin.
Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de réouverture aujourd'hui. C'est que nous sommes dans l'impossibilité d'assurer que aucun collaborateur ne va toucher un produit qui soit considéré comme non prioritaire. Est-ce qu'un coupe-ongle est un produit d'hygiène? Est-ce qu'un préservatif est un produit médical? C'est extrêmement difficile de définir ce qu'est un article essentiel.
Alors pendant cette période, Amazon va devoir évaluer l'efficacité des mesures sanitaires mises en place, mais contrairement à ce qui a été fait jusqu'ici, il faudra l'aval des représentants du personnel pour sortir de cette situation et espérer reprendre l'activité. En attendant, les milliers de salariés concernés vont être mis au chômage partiel. Amazon s'est engagé à les payer à hauteur de 100% de leur salaire, et ce, malgré un manque à gagner qui se chiffrera en millions d'euros.
Clément Le Saffre.
Bonjour Rodolphe Bonas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes spécialiste consommation, vous êtes le président du groupe CEACOM. Alors ce n'est pas sans conséquence hein, la fermeture d'Amazon, parce que pour beaucoup de Français en confinement, ces petites livraisons, c'est un petit peu c'est les petits bonheurs de la journée.
Et oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est là où finalement la définition du produit essentiel dans cette période de confinement est très compliquée. Parce que vous comprenez bien que lorsqu'on est obligé de télétravailler, lorsqu'on est obligé de faire travailler les enfants à la maison, bah finalement on se rend très vite compte que les ramettes de papier, les agrafeuses, deviennent là aussi, ou des cartouches d'encre par exemple, deviennent des produits essentiels. Mais je vous donne un autre exemple. Quand vous êtes confiné et que les activités extérieures sont restreintes, et du coup le sport par exemple a connu une explosion colossale en termes de sport à la maison. On a vendu, tenez-vous bien, 9 fois plus de tapis de yoga que d'habitude. C'est complètement colossal. Donc ça veut dire que la notion d'essentiel dans cette période de confinement ne peut pas se restreindre à l'alimentaire ou aux produits médicaux. Elle est aussi, ce que vous dites là aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi arriver à égayer la vie des gens quand ils sont coincés chez eux.
On imagine aussi qu'il y a effectivement ces produits-là qui cartonnent, les DVD, ou on a plus de DVD aujourd'hui, je parle un peu comme un dinosaure, mais je parle pour moi, mais il y a des jouets.
Les jeux de société, 83% de jeux de société ont été vendus en plus que d'habitude, 83%, vous vous rendez compte, c'est colossal.
Et alors, est-ce qu'après tout ça, après ce confinement, on va changer nos habitudes? Est-ce qu'on va continuer à commander encore plus à distance, ou c'est vraiment le temps du confinement, on a besoin de ces petits paquets pour améliorer et égayer notre quotidien?
Alors, vous avez raison, les comportements de consommation sont en train d'évoluer lourdement. Pourquoi ? Parce que on est passé, vous savez, on a connu le boom du paiement sans contact, hein, vous savez, la capacité de payer directement avec son téléphone. Maintenant, on est vraiment dans l'achat sans contact. Et on voit très très bien que, typiquement dans les produits alimentaires, le drive, hein, vous savez, c'est la capacité que l'on a de commander ces produits alimentaires à domicile et après d'aller les chercher avec sa voiture, connaît un boom et une explosion colossale. On a de nouveaux adeptes de ces modes de consommation que j'appelle sans contact. Donc il y a fort à parier que finalement cette période de confinement va modifier durablement nos méthodes et nos manières d'acheter. Je veux quand même souligner que depuis le début de ce confinement, et il faut l'avoir en tête, c'est quand même une très forte régression de la consommation, hein. C'est-à-dire que tout ce que l'on n'achète plus en magasin n'est pas compensé, bien évidemment, par l'explosion sur le e-commerce. Sachez que 3/4 des sites e-commerce déclarent être en baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. C'est absolument colossal. Donc, surtout, n'imaginons pas que les Amazon, les sites discount ou les snacks Darty sont dans des situations de croissance qui sont quasiment indécentes.
Et c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, spécialiste conso, président du groupe SEACOM, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Le trafic aérien est, on le sait, quasiment à l'arrêt. Air France n'assure plus que quelques vols commerciaux, c'est à peine 5% du trafic habituel, notamment pour le rapatriement des Français depuis l'étranger.
Oui, il y a ça, il y a aussi les vols cargo, hein, pour transporter le matériel médical, mais même si la reprise d'une activité normale est encore très lointaine, Air France prépare ses avions. Des opérations de maintenance inédites sont mises en place. Aurélien Fleureau.
On a quasiment toute la flotte d'Air France qui aujourd'hui est arrêtée de vol, hein, 180 machines sur 220 à peu près.
Les pistes sont devenues des parkings. Plus de 120 appareils alignés à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le reste est réparti entre Orly et Toulouse, explique Géry Mortreux, directeur général adjoint d'Air France en charge de la maintenance, dont la mission principale est désormais de protéger des avions qui ne restent jamais immobilisés aussi longtemps.
Protéger l'avion de différents phénomènes, de la corrosion, de l'apparition de bactéries par exemple dans le carburant, protéger par exemple les systèmes de sonde, hein, qui sont utilisés par les pilotes en appliquant dessus des protections pour éviter que des insectes viennent faire leur nid et viennent, lorsque on reprendra les opérations, perturber les bonnes informations pour les pilotes.
Autre opération indispensable en ce moment, faire bouger l'avion, démarrer le moteur, mais aussi faire en sorte que les roues restent opérationnel.
On doit faire tourner les roues. Alors soit on déplace l'avion, mais ce qui n'est pas toujours possible en position de parking, soit on utilise un cric, hein, comme pour une voiture, pour finalement soulever le train d'atterrissage, pour pouvoir régulièrement éviter que cette carcasse de la roue ne puisse s'endommager.
Les avions resteront au sol entre 1 et 3 mois, 150 heures de maintenance pour chaque appareil. Pour s'en occuper, 1000 salariés d'Air France se relaissent, 8 fois moins de personnel qu'en temps normal.
Un reportage d'Aurélien Fleureau.
Emmanuel Macron, on l'a dit, a été vu par 37 millions de Français lundi soir dernier.
Oui, et souvenez-vous de son ton très solennel. Eh bien, dans une interview au Point qui paraît aujourd'hui, mais qui a été réalisée vendredi dernier, donc avant le discours de lundi soir, eh bien, le président prend une toute autre posture, Adrien Beck. Il assume.
Pas question de faille ni de raté. Dans cet entretien, Emmanuel Macron se défend. Le manque de masques, on me fait le procès d'il y a 15 jours, mais sur les stocks, je ne ferai pas le procès de mes prédécesseurs, dit-il. Une pique, en particulier à François Hollande. Concernant Agnès Buzyn, propulsée candidate au municipal à Paris, le chef de l'État l'assure, cela n'a eu aucun impact sur la gestion de crise. Mais régulièrement, le président confie une forme de tâtonnement au gré des avis d'experts. Le maintien du premier tour des municipales sur leurs recommandations, j'assume totalement, dit Emmanuel Macron, qui reconnaît aussi avoir craint les procès en manipulation en cas d'annulation. Une sortie au théâtre avec son épouse juste avant le confinement, là encore, aucun scientifique ne m'a dit qu'il ne fallait pas sortir dans la rue, justifie-t-il. Depuis, le chef de l'État continue à se déplacer, créant parfois la polémique en plein confinement. Il me faut prendre le pouls du pays, assure-t-il, aller au contact, là où se joue cette guerre sanitaire.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
La fièvre judiciaire des Français dans cette crise du coronavirus, une trentaine de plaintes visant nommément des ministres ont d'ores et déjà été enregistrées par la Cour de justice de la République.
Ouais, elle cible notamment Olivier Véran, le ministre de la Santé, Christophe Castaner, celui de l'Intérieur, Agnès Buzyn, qui a été ministre de la Santé, ou encore le chef du gouvernement, Édouard Philippe. Il y a aussi de nombreuses plaintes contre X, Salomé Legrand. Les Français qui les ont déposées veulent que les responsables à tout niveau rendent des comptes.
Oui, parmi eux, certains ont perdu un proche et ont déposé plainte pour homicide involontaire. D'autres ont été malades ou directement exposés. Ils invoquent la mise en danger de la vie d'autrui. Et puis, certains citoyens qui n'ont rien eu de spécial pour l'instant s'appuient sur un article peu connu du Code pénal, le 223-7, qui punit l'abstention volontaire de prendre des mesures pour combattre un sinistre. Hervé et Stéphane, par exemple, ne font pas confiance à la commission d'enquête parlementaire pour avoir des réponses.
On n'a pas fermé les aéroports en temps voulu, on n'a pas préparé les stocks de masques, ils n'ont pas réquisitionné d'usines en amont pour pouvoir faire face à la pénurie d'équipements. Une accumulation de fautes, que ce soit portée sur la place publique et qu'on ait des réponses réelles sur cette mauvaise gestion de crise. S'ils reconnaissaient leurs erreurs, je n'aurais pas porté plainte.
Moi, j'ai eu le sentiment de mettre mes employés un peu en danger. Je me doute très bien que rien ne se passera. Et c'est pour leur dire, vous êtes des citoyens comme les autres et à un moment donné, faut payer.
Alors, une grande majorité de ces plaintes devraient être classées sans suite, notamment parce que ces délits sont difficiles à caractériser. Il faut prouver que la personne a volontairement exposé autrui à un risque en ayant pleinement conscience.
Salomé Legrand, on va partir à Petit-Quevilly, maintenant près de Rouen. Le confinement vire au calvaire depuis 3 semaines pour les riverains du site de Lubrizol. De très très fortes odeurs continuent de s'échapper de l'usine pétrochimique où des travaux de nettoyage se poursuivent plus de 6 mois après l'incendie. Selon l'entreprise, stopper ces travaux serait encore pire. Les riverains doivent donc vivre calfeutrés en confinement. C'est très difficile pour eux. Théo Manval.
Ça nous dégoûte, on a envie de vomir, on a mal à la tête.
Une forte odeur d'hydrocarbures, tous les jours ou presque depuis maintenant 3 semaines, à quelques centaines de mètres du site Lubrizol, le confinement pour Farida est devenu un enfermement quasi total.
On ne peut pas sortir, on ne peut même pas manger dehors, tellement que c'est écœurant. On a un jardin pour profiter et là, on rentre, on ferme les fenêtres et puis voilà.
Alors d'où viennent ces nuisances? La préfecture a fait arrêter plusieurs jours les travaux de nettoyage, mais les relents ont persisté. La météo, avec un retour de la chaleur et du soleil, pourrait y être pour quelque chose, explique Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly.
L'ensemble du site est encore à ciel ouvert, donc avec le rayonnement lumineux, ça refait sortir encore plus les odeurs. Donc ils sont en train de poser en fait un film, une sorte de latex blanc pour isoler les bâtiments qui ont brûlé des rayonnements du soleil.
Arrêter ces travaux serait donc pire, selon la direction. Dont acte, répond Alexandre Ferron, président de l'association des riverains de Lubrizol.
L'usine a été très très vite pour reprendre son activité. Par contre, on nous annonce 1 an de nettoyage. Dans ces cas-là, pourquoi pas mettre 1-2 équipes supplémentaires pour accélérer le mouvement? C'est une question de priorité.
Pour l'heure, la diminution de ces odeurs n'est pas espérée avant 3 semaines.
À Théo Manval.
Europe 1.
À suivre, qu'en est-il du Festival de Cannes? Aura-t-il lieu? N'aura-t-il ou pas? Eh bien, ce sera juste après cette petite pause.
Sayag.
Direction l'Allemagne maintenant, déconfinement progressif à partir du 4 mai, une semaine avant nous.
Oui, et même topo que chez nous, beaucoup de points encore à éclaircir. Correspondance à Berlin d'Hélène Kohl.
Dans un premier temps, l'Allemagne va rouvrir ses magasins. Tous les commerces de moins de 800 mètres carrés sont autorisés à reprendre leur activité dès lundi, mais en limitant le nombre de clients et en respectant les gestes barrières. La chancelière a de nouveau appelé les Allemands à éviter tous les contacts sociaux. De ce côté-là, rien ne change jusqu'au 4 mai. Ici, il n'est pas formellement interdit de sortir, mais il vaut mieux s'en dispenser. Angela Merkel recommande aussi le port du masque dans les commerces et les transports publics, même s'il y a encore des interrogations autour de leur utilité, a-t-elle précisé. C'est du Merkel pur jus. Elle met les Allemands en face de ses propres interrogations et explique pourquoi elle ne peut pas trancher. Comme par exemple pour la réouverture des établissements scolaires. Ce sera aussi à partir du 4 mai. Mais à ce stade, elle est incapable de dire comment va se passer ce retour à l'école. Les experts sont divisés. L'Académie des sciences voudrait commencer par les primaires. D'autres spécialistes pense que seuls les plus grands pourront respecter les règles d'hygiène. La chancelière a donc laissé la question ouverte en attendant que de nouvelles études sur la contamination par les enfants soient publiées. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Le monde entier cherche des traitements contre le Covid-19. Aux États-Unis, des chercheurs ont commencé à en tester un à base d'anticorps de personnes guéries du coronavirus. L'agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration, a donné son feu vert.
Oui, et Donald Trump en a même parlé hier dans son point presse, expliquant que des milliers d'Américains guéris donnaient leur sang pour la recherche. L'une de ces expérimentations a eu lieu à New York, épicentre de la pandémie, où se trouve notre correspondant Xavier Yvon.
Diana Berendt a été l'une des premières malades à New York, l'une des premières à guérir, et il y a quelques jours, la première a donné son sang avec ces fameux anticorps qui ont vaincu le virus. Nous, les survivants, nous avons des super pouvoirs, dit-elle. Nous avons dans notre corps le secret de ce mystérieux virus. Un secret que voudrait percer l'étude lancée par l'Université de Columbia. C'est le docteur Eldad Hodd qui a récupéré le plasma de Diana pour le transfuser à des groupes tests, des malades critiques, des malades légers, et des gens en bonne santé. Ce n'est pas une idée nouvelle, explique ce spécialiste des transfusions. Ça a déjà été essayé il y a 100 ans pour la grippe espagnole ou pour le SRAS dans les années 2000, mais à petite échelle. Il y avait eu des résultats, mais pour savoir si le traitement est viable, il faut une étude complète. On essaye d'avoir la réponse le plus vite possible, explique le docteur Hodd, et si ça marche, alors l'industrie prendra le relais pour en produire le maximum. Il faudra pour ça une énorme quantité de plasma, et Diana a déjà créé une association pour appeler les autres anciens malades comme elle à donner un peu de leur super pouvoir. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Le monde de la culture est très impacté par le coronavirus. Les festivals sont annulés les uns après les autres.
Et précision du ministre de la Culture, Franck Riester, nous serons aux côtés de tous les acteurs culturels. Nous mettrons en place un plan spécifique annoncé par Emmanuel Macron. Pourtant, Cannes, c'est vraiment très mal parti pour le maintien en l'état, Mathieu Charrier.
Assez certain, il y a encore beaucoup de questions qui se posent à la lecture des interviews données par Thierry Frémaux, le délégué général du festival, ce matin dans la presse écrite. On a quand même quelques pistes de réflexion. Par exemple, une montée des marches avec des masques à la rentrée, explique-t-il. C'est un trait d'humour, mais c'est vrai que Cannes réfléchit à organiser son festival en même temps que Venise, en collaboration, tout début septembre donc. Alors est-ce que les films seraient en compétition aux deux endroits ? Tout reste à déterminer, mais ça c'est, je dirais, le scénario le plus optimiste. Car ce qui semble quand même se dessiner, c'est que le festival n'ait pas lieu, mais qu'il soutienne des films, les films qu'il avait prévu de sélectionner, avec, pourquoi pas, annonce Thierry Frémaux, un label Cannes 2020 sur les affiches. En tout cas, n'imaginez pas une version numérique du festival. Ça, le délégué général ferme la porte à cette possibilité. Il faut dire que Cannes refuse de sélectionner depuis des années des films Netflix qui ne sortent pas en salle. Donc, il ne peut pas organiser son festival hors des salles. En revanche, le marché du film, vous savez que Cannes, c'est aussi un grand marché où producteurs et distributeurs vendent et achètent des films. Lui, ce marché, il aura bien lieu en version numérique du 22 au 26 juin. Je terminerai en vous disant que la seule fois où Cannes n'avait pas eu lieu, c'était en 1939 pour la toute première édition, interrompu par la guerre. Et puis en 68, le festival n'avait pas pu se terminer en raison des événements de mai 68. Mais il avait bien commencé, il s'était bien tenu.
Eh bien, nous suivrons ça avec attention avec vous, Mathieu Charrier. En tout cas, en Allemagne, sachez que l'idée d'un cinéma en drive a été lancée. Vous venez dans votre voiture, vous restez à l'intérieur, confiné. Oui, garé face à un écran géant. Ça rappelle un peu l'Amérique des années 50. Hein. Hier, c'était donc la... faut aimer la programmation. C'était La Reine des Neiges 2 et notre correspondant en Alsace, Arthur Elmbaché, est allé faire un tour. Donc en voiture, de l'autre côté de la frontière.
Alors me voilà garé bien en face de l'écran sur lequel il est écrit que pour entendre le son il faut se brancher sur la station de radio 105.9 Autokino, le ciné en voiture.
Anna, Elsa.
Ah, Anna, Elsa, c'est bien la Reine des Neiges. Alors je vais demander à mes voisins de voiture juste à côté ce qu'ils en pensent.
On s'ennuie avec les enfants à la maison, c'est long. Alors dès qu'on en a entendu parler, on a décidé de venir ici.
Est-ce que vous croyez que c'est sûr?
Yes.
Ben voilà, bonne réponse. Elle vient de me remonter la vitre sous le nez sur justement les précautions prises en ces temps de virus. Écoutez Johannes, l'organisateur.
Les fenêtres doivent rester fermées. Nous, on scanne le ticket à travers la vitre. Il n'y a pas de contact entre les gens.
Alors je voulais vous donner le programme de ce mercredi, mais ça sert à rien. Côté français, on vous laissera pas prendre la route. Pour ça, essayez de dire aux gendarmes que vous allez à la séance de 17h de Peter Hase, Pierre Lapin, en VF.
Oh, papa.
Offenbourg, Arthur Henbaché, Europe 1.
Voilà, comme ça on aura la chanson dans la tête pour toute la journée. On a vu d'ailleurs dans le son
en allemand, c'est
il avait les vitres électriques quand même dans sa voiture. Hein. Ça fait bzzz.
Après le foot qui a annoncé sa reprise et le Tour de France décalé, mais qui aura lieu, hein, c'est au tour du rugby d'annoncer lui aussi son retour, tandis que les championnats de handball et de basket ont jeté l'éponge, les rugbymen devraient être de retour pour finir la saison et tenter de sauver l'économie de tout un sport. Simon Ruben.
Après une dizaine de réunions, des heures de discussion et de tractation, les présidents des clubs de rugby de Top 14 sont enfin tombés d'accord. La saison va bel et bien reprendre et comme pour le foot, l'idée, c'est de finir le championnat cet été. Et ce sont les clubs qui vont maintenant voter pour choisir le scénario de reprise qui leur va le mieux. Première option, retour sur les terrains fin juin, début juillet, avec des phases finales entre les meilleures équipes seulement pour désigner un champion et une finale au Stade de France le 18 juillet. Deuxième option, un tournoi final entre les meilleurs, mais cette fois au mois d'août, scénario qui tient la corde puisqu'il permettrait de s'assurer de la présence d'un public. L'enjeu pour le rugby est évidemment économique, avec plus de la moitié des clubs de Top 14 au bord de la faillite. Il faut jouer, engranger des recettes en publicité, en sponsoring, en billetterie. Sur ce dernier point, plus la reprise aura lieu tard, plus la présence des supporters semble plausible. Le rugby met donc en marche son grand plan de retour sur les terrains. Le calendrier définitif sera acté d'ici deux semaines.
Précision signée Simon Rubin.
Direction Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, vous allez le voir, le confinement, c'est pas vraiment ça.
Oui, parce que la police a découvert, figurez-vous, il y a deux jours, un bar clandestin des personnes qui se réunissaient en journée pour consommer de l'alcool dans un café dont le rideau était pourtant baissé. Jean-Luc Boujon.
Oui, c'est un voisin intrigué par les allées et venues dans la rue quasi déserte qui a alerté la police mardi en fin de matinée. Visiblement, le petit manège avait lieu chaque jour, juste avant midi, hein, au moment de l'apéro, dans ce bar, la Potinière, située juste à côté de la gare de Villefranche. Les policiers ont donc débarqué, ils ont fait ouvrir la grille, soigneusement abaissée pour éviter les soupçons. Et là, ils ont découvert 6 personnes, le patron et 5 clients, en plein moment de convivialité autour de bouteilles de champagne et de rosé. Évidemment, en plein confinement, tout cela est interdit. Le patron a bien essayé d'expliquer qu'il s'agissait de copains qui étaient passés lui faire un petit coucou, mais l'excuse n'est pas passée, d'autant que les attestations des clients étaient pour le moins fantaisistes. Tout le monde a donc été verbalisé, 135 euros pour le patron et chacun des 5 clients, et le bar a été fermé cette fois définitivement, au grand soulagement des voisins confinés qui commençaient à enrager de voir tous les jours depuis leur fenêtre des hommes sortir du bar en rigolant, visiblement éméchés. Désormais la rue de Stalingrad à Villefranche est beaucoup plus calme.
Merci Jean-Luc Boujon et merci à vous Elisabeth.
Et merci Pierre de Villeneuve, on vous retrouve demain à partir de midi.
Europe 1.
Le confinement, c'est une épreuve difficile et encore plus quand on est atteint d'un trouble. Les limites de temps et de distance ne sont plus imposées, non seulement pour les personnes atteintes d'autisme, mais aussi pour toutes les personnes qui rencontrent une aggravation de leur trouble du fait du confinement. On va en parler pendant une heure à partir de 13h. À tout à l'heure.